arriver à la décroissance.
On bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir, nous nous regardons pour savoir qui prend la parole pour débuter ce Canu Info du jeudi 18 avril 2019. Nous sommes en compagnie, en votre compagnie jusqu'à 20h. Vous pourrez ensuite retrouver l'équipe de la Petite Cuillère. Je suis ce soir avec le retour du Fils de la Vengeance, j'ai nommé Laurent. Bonsoir à toi.
Bonsoir Delphine.
Nous allons parler de plein de choses, donc d'incendies, de comment éteindre le feu, de flèches, de cathédrales, de dons.
Stop. C'est pas ce qui est écrit sur mon truc là, mon conducteur.
Je suis déçue. Non, et tu sais que
là, t'as fait France Info ou BFM, tu t'es trompé.
Tu sais que sans rire aujourd'hui, c'est la journée internationale des monuments et des sites. C'est la journée de l'UNESCO qui existe depuis 1982. Eh, quand même, ça tombe bien, non? Alors, on va vous parler plein d'autres choses. On va vous parler de Monsieur Macron et de Madame Pénicaud. Ça sera avec Laurent. Nous pourrons revenir très très brièvement sur la grève des éboueurs ici à Lyon. Nous parlons de Monsieur Touraine, Jean-Louis. Hein, vous savez, et on se posera une question avec Laurent. Est-il l'ami des fachos lyonnais? Oh, vous allez répondre.
J'ai même une réponse.
Ça, je me doute. Tu as une autre question ensuite. Orwell à Saint-Étienne. Ouh, ça c'est mystérieux. On parlera aussi de contrôle et du fichage des gilets jaunes blessés. Nous irons ailleurs dans le monde voir ce qui se passe en Égypte, à New York. On pourra peut-être parler d'Israël si nous avons le temps dans cette petite rubrique, mais on prendra le temps. On parlera aussi d'une ministre des armes.
Qui semble ne pas aimer la vérité.
Bon, en tout cas, qui ferme les yeux très très fort pour pas la voir, la vérité. Hein. Et puis nous irons faire un petit tour des profiteurs pour voir un petit peu qui rachète qui. Hein. Ça sera des petites chroniques que je vais vous faire aujourd'hui. On parlera de Nature et Découverte, Michel Augustin, des marques qui sont censées être de chouettes marques, mais qui appartiennent à d'autres. Et bientôt, ce sera le cas pour Nature et Découverte. Nous irons faire un petit tour du côté de Londres parce qu'il y a des manifs écolos. Des tas de choses. Et puis voilà, on verra tout ce qu'on peut vous dire d'autre dans cette émission. Mais tout de suite, on commence avec deux amours, Monsieur Macron et Madame Pénicaud.
Bah oui, puisque vous avez peut-être entendu que Monsieur Macron a reçu aujourd'hui les pompiers de Paris pour les remercier.
Oh.
Et les remercier de quoi? Eh bien, d'avoir fait leur travail.
Mais ils l'ont bien fait.
Alors, me direz-vous, bien ou pas, c'est difficile de juger sur un travail aussi compliqué qu'éteindre un feu. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi les pompiers sont reçus et pas les autres travailleurs et travailleuses? Alors, comme d'habitude, Monsieur Macron, mais aussi sa ministre du Travail, Madame Pénicaud, instrumentalise l'actualité à leur dessein pour mieux, finalement, discriminer les individus, laissant entendre, finalement, que tout le monde ne mérite pas les ors de la République. Vous qui soignez, qui enseignez, qui vous occupez des personnes âgées, qui aidez les personnes à la rue, qui faites du pain, enfin je ne sais quoi. Bref, vous toutes et vous tous, vous ne méritez rien d'autre que le mépris de Macron et de son amie Madame Pénicaud. Alors, pourtant on se dirait, bon, on pourrait se dire, il n'y a pas eu de blessés ou de morts chez les pompiers. Est-ce qu'il y en a eu d'autres dans le monde du travail ? Eh bien oui, le travail tue. Et vraisemblablement, M. Macron, Mme Pénicaud ne veulent pas rendre hommage à celles et ceux qui meurent à cause du travail, sauf bien sûr si vous êtes flic, militaire ou pompier, hein, bien évidemment. Ainsi, ni Macron ni Pénicaud n'ont versé une larme sur cet homme écrasé par une palette de déchargement qui malheureusement n'a pas survécu. C'était vendredi dernier à Thoriac en Gironde. La même chose pour ce jeune bûcheron de 27 ans qui a été grièvement blessé hier en fin d'après-midi sur la commune de Doisieux, en plein cœur du parc naturel régional du Pilat. Encore moins pour cet homme déclaré en urgence absolue, tombé d'un toit. C'était aussi hier, près de Lisieux, dans le cadre de son travail, bien évidemment. Et ne parlons pas de ce jeune homme de 19 ans. C'est quand même un peu jeune pour mourir des conséquences du travail. Et oui, il a été, alors lui, c'est un petit peu triste, enfin, comme les autres d'ailleurs, chargé et écrasé par un taureau. Alors, il travaillait dans une ferme, il devait nettoyer le taureau, la bête a chargé. Et il ne lui a laissé aucune chance. Il est mort, donc, c'était hier ou avant-hier. Bien sûr, aucun hommage présidentiel pour celles et ceux disparus non plus la semaine dernière. On peut parler de ce routier de 26 ans, de ce routier de 40 ans, de cet ouvrier du bâtiment de 40 ans, de cet ouvrier du bâtiment de 50 ans, de ce routier, de cette ouvrière d'ailleurs du bâtiment, de ce routier de 5, bon, etc., etc. Je pourrais vous faire une liste. La semaine dernière, il y aurait eu officiellement au moins 8 morts des suites du travail. J'en ai trouvé 4 cette semaine. Vraisemblablement, M. Macron n'a pas voulu leur rendre hommage. Il a préféré rendre hommage à des gens qui ont juste fait normalement leur travail. On rappellera qu'en moyenne, 1715 personnes par jour sont victimes d'un accident du travail. Heureusement, pas tous mortels, loin de là. Car oui, le travail tue, mais la ministre du Travail, Mme Pénicaud, n'a pas envie de leur rendre hommage, puisque vraisemblablement, elle considère que certains travailleurs ne sont que de la chair humaine. Et d'autres, par contre, doivent être glorifiés dans leur travail. C'était le cas des pompiers. Et ben, c'est toujours triste de faire cette discrimination sur les travailleurs et les travailleuses, puisque chacun, chacune mérite exactement la même chose, le même remerciement pour le travail. Et surtout, qui abîmait sa vie, puisque le travail abîme, quoi qu'on en dise, comme je viens de vous le démontrer à l'instant. Parlons des éboueurs. Alors, j'ai pas dit s'il y a un éboueur qui est mort la semaine dernière. Enfin, voilà, bon, c'est tous les jours que le travail tue. En ce moment, à Lyon, ça tuait pas trop, le travail des éboueurs.
Alors, c'était pas tant d'ailleurs de parler des éboueurs que de parler aussi de monsieur Kimmelfeld. Je peux en profiter, tiens, pour dire que le 18 avril 1904 est paru le premier numéro de l'Humanité. Travailleurs, travailleuses, voilà, c'était un journal socialiste, le journal de Jean Jaurès, juste pour dire comme ça. Voilà.
Après, ça a dérivé en journal obscurantiste communiste, mais bon, bref.
Voilà. Mais à l'époque, ça avait du sens, et voilà, tout à fait. C'est juste pour le dire. Oui, alors c'était aujourd'hui une journée aussi où les salariés de Pizzorno étaient aussi en train de se demander est-ce qu'ils allaient pouvoir continuer leur grève ou pas. Il leur a été répondu que oui.
Oui, par le tribunal.
Tout à fait, c'est ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, puisque il y avait 10 salariés grévistes qui étaient accusés de entrave à la liberté de travail, jet de projectile, je crois qu'il y avait diffamation, enfin tout un tas de choses. Donc bon, c'est plutôt une bonne nouvelle de savoir que il y a encore des gens qui ont le droit de faire grève.
Ouais, alors le motif retenu, c'est qu'il n'y a pas d'entrave quand il n'y a pas d'impact économique sur l'entreprise. Or, les contrats sont passés, il n'y a pas eu d'impact direct économique. Donc, on est content quand même que le tribunal permette aux grévistes de continuer de bloquer, de faire grève, même s'il semble que la grève soit sur sa phase finale.
Alors, aujourd'hui, il y avait encore des négociations. Mm-hmm. Là, tout à l'heure, je n'avais pas tout à fait la fin de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais ce qui était marrant, c'était de suivre, pour une fois, que les réseaux sociaux peuvent servir à quelque chose. Il y avait, par exemple, Sud Solidaire qui a tweeté toute la journée de « Bah alors, on a des représentants qui sont allés en négociation. On les attend. » Avec des petits trucs marrants. Hein, quand on est gréviste, au milieu, on boit le café, on se raconte des blagues. Mais c'était aussi, voilà, pour une fois que ça sert à quelque chose, tous ces réseaux qui gazouillent, ça nous permettait de suivre un petit peu bah, l'avancée et puis l'attente, parce que quand on est gréviste, bah, c'est beaucoup d'attente. Quand on est en négociation, c'est beaucoup d'attente. Ce qui était intéressant aussi, c'est de suivre monsieur Kimmelfeld, David, de la métropole, qui a fait pas mal de communiqués, hein, puisque il était coincé entre le fait. On n'arrive pas à bien savoir quand je lis les communiqués. Par exemple, là, j'ai ceux du 17 avril et du 16 avril sous les yeux. Les communiqués de la métropole, on n'arrive pas bien à savoir si la métropole demande à l'entreprise de reprendre très très rapidement le travail pour nettoyer les rues. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une menace de rentrer en négociation ? Ou est-ce qu'en fait, on demande à l'entreprise de détourner le droit de grève en palliant aux grévistes, hein, en en trouvant d'autres, des travailleurs, qui eux ne se mettraient pas en grève, pour ramasser les ordures. C'est-à-dire qu'on ne sait pas bien à quoi joue la métropole, hein, sur cette question. C'est un petit peu ambigu, je trouve, quand on lit les communiqués. En tout cas, la métropole demandait à l'entreprise Pizzorno de faire son boulot contractuel, ramasser les ordures, et donc d'assurer un service de collecte. Dans celui du 16 avril, on apprenait donc que la métropole avait fait appel à d'autres entreprises de ramassage des ordures pour pallier l'absence des travailleurs de Pizzorno dans la rue, pour enlever ces fameux déchets qui, a priori, gênaient, hein, à la vue. Hein, voilà, parce que c'est vrai qu'il y avait des petits tas quand même, hein, il faut
des,
le dire.
Des gros tas.
Ouais. Bah ouais, mais bon, voilà. Hein. Donc voilà, on sentait quand même que... Bon, il y a voilà, au niveau de la métropole, les élus commençaient un petit peu à mettre leur grain de sel là-dedans. Mais on n'arrive pas bien à savoir quand même s'il y avait du soutien ou pas dans cette affaire. Mais il faut dire que M. Kimmelfeld, là, il est un petit peu sur tous les fronts quand même, hein, puisqu'il fait partie des heureux et généreux donateurs, puisqu'il souhaite que la métropole puisse donner des sous pour réparer le machin qui était en feu.
Ah ouais, lui aussi, lui.
Comme Laurent Wauquiez.
Ah ouais, il trouve que l'argent de la métropole pourrait pas servir aux enfants et aux parents qui sont à la rue, là.
Alors, je te rappelle que Laurent Wauquiez, lui, il a dit qu'il voulait débloquer 2 millions d'euros.
Voilà, donc 2 millions de moins pour d'autres projets.
Mais c'est un peu la course. On se demande qui va plus donner, machin, tout ça, qui va faire le plus de bruit que les autres. Et d'ailleurs, M. Kimmelfeld, je vous le disais, il est un peu sur tous les fronts, hein, puisque la semaine dernière, il y a eu le 12 avril, il y a eu un communiqué sur le Rhône Express. Hein, on en avait parlé ensemble, tous les deux. Hein, c'est-à-dire que la métropole de Lyon souhaite renégocier le contrat pour ce Rhône Express, qui est à la fois très cher pour les utilisateurs et les utilisatrices, qui bloquent des solutions alternatives concurrentielles. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une ligne de bus qui pouvait encore faire quelque chose. Cette ligne a été zappée. Et puis, pouvoir améliorer la mobilité du quotidien, je cite le communiqué, c'est-à-dire finalement, y a des tramways qui servent un peu à rien. Ce Rhône Express, il peut servir à rien, puisqu'en fait, il est très très cher hein, quand même. Hein. Donc, de toute façon, c'est soit vous allez jusqu'au bout à l'aéroport, soit rien. Donc, c'est marrant parce que c'est un peu ça, on a l'impression que c'est un peu un truc que tout le monde veut aussi renégocier. C'est un peu une marotte qui est rentrée aujourd'hui dans la politique lyonnaise, vouloir renégocier ce Rhône Express. Gérard Collomb, lui, il n'est pas très content parce que forcément, lui, il aime bien ce Rhône Express très cher qui est fait pour des élites, qu'on est un peu obligé de prendre hein, quand on volait à l'aéroport parce que c'est le toit, le taxi, vous êtes à 12 dedans et vous essayez d'économiser des sous pour partager les frais. Soit vous y allez, je ne sais pas, en trottinette, hein, par exemple, électrique, bien évidemment. Pas nucléaire, enfin voilà. Donc cette grève des éboueurs, c'est compliqué. Monsieur Kimmelfeld, lui, il a la manœuvre un petit peu de partout. On sent quand même que sur Lyon, ça bouge, qu'il va y avoir des élections et que tout le monde essaye un petit peu de se positionner sur tous les fronts et sur tous les sujets.
Oui, alors on va parler de Jean-Louis Touraine, qui était l'ancien président de la région et qui était remplacé par M. Wauquiez, puisque avec Thomas Rodigoz, Jean-Louis Touraine est l'autre député du Rhône, membre de la commission d'enquête parlementaire sur les groupuscules d'extrême droite. Alors ces gens, membres de cette commission, ont déambulé, c'est ce qu'il nous est dit, dans le Vieux-Lyon pour voir effectivement ce quartier qui abrite pas mal de groupes de fachos. Et je vais citer M. Touraine, il a dit « Lyon a été le siège d'un humanisme chrétien puis laïque, cet humanisme ne peut pas aller de pair avec l'absence de valeurs que véhicule l'extrême droite ». Là, d'un seul coup, je me dis, tiens, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il semble jouer le révisionniste, parce que cette extrême droite, elle est quand même beaucoup liée aux cathos traditionnalistes lyonnais, hein, les grandes familles, là, qui habitent le deuxième, tout ça. Hein, on les a vus quand ils sont venus prier, faire une prière de rue sur la place Colbert. Ces cathos, ils étaient entourés des fachos. Donc, voilà, essayer de cette justification historiquement pas tout à fait juste, me semble farfelu. Et alors, il est allé encore plus loin, parce qu'il est vraiment énorme, ce monsieur Touraine. Il a dit, je cite, « Outre les actions xénophobes, homophobes et antisémites, l'ultra-droite, ah oui, puisqu'on appelle plus ça l'extrême droite, hein, c'est pas assez bien, l'ultra-droite a tendance à affronter sa némésis. » Et là, on se dit, ouah, qu'est-ce que c'est la némésis de l'ultra-droite ? C'est l'ultra-gauche.
Sans on serait peut-être douté.
Ouais, petit con, va. Alors, je cite, « Ils aiment beaucoup se confronter, par exemple, sur le pont de la Feuillée, où ceux qui viennent des pentes de la Croix-Rousse, c'est nous ça, hein, affrontent ceux du Vieux-Lyon, c'est les fachos, dans les combats ridicules qui sont mauvais pour l'image de la ville. Il n'en sortira jamais rien de positif. » Oh là là. Bon, bah bref, il a continué. Il n'est pas exclu que demain, quelque chose soit développé à l'Assemblée nationale sur l'ultra-gauche, contre l'ultra-gauche, c'est-à-dire contre toi et moi, hein, et contre les autres. Bon bref, on l'aura compris. Les fachos sont certes des méchants, mais l'extrême-gauche, l'ultra-gauche, pardon, je me suis trompé, reste l'ennemi de M. Touraine. On découvre donc que Touraine n'aime pas du tout les actions des antifas. Du coup, on comprend bien pourquoi ce triste personnage n'a jamais rien fait contre les mouvements d'extrême-droite à Lyon. Et d'ailleurs, c'est bien parce que ces actions violentes des antifas, c'est bien grâce à ces actions violentes des antifas que les fachos ne viennent pas trop dans notre quartier, pas des pentes de la Croix-Rousse. Hein, parce que quand ils y viennent, ils se font jeter. Imaginez la Croix-Rousse sans les antifas. Que resterait-il de Radio Canu ? Que resterait-il de certains bars ? Que resterait-il du siège du Parti communiste ? Alors déjà qu'il ne reste pas grand-chose. Que resterait-il des locaux syndicaux ? Eh bien, il n'y aurait plus rien. Car ni Touraine ni ses amis flics ne font et n'ont jamais fait quoi que ce soit pour nous protéger, nous, des fachos. Radio Canu a été attaqué 3 fois, pas d'enquête, pas d'arrestation, rien. La CNT a été attaquée plusieurs fois, dont une fois récemment, rien non plus. Le local du Parti communiste a été attaqué plusieurs fois, rien non plus.
Je crois que c'est le PC qui s'est fait le plus attaqué. Voilà. Ouais.
Conclusion. Monsieur Touraine et ses amis élus qui dirigent la police n'ont jamais rien fait contre l'extrême droite. Et bien heureusement, grâce aux antifas, l'extrême droite n'arrive pas à s'implanter sur les pentes de la Croix-Rousse. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'agressions de militants, beaucoup moins d'agressions d'homo sur les pentes de la Croix-Rousse que dans le 5e. Et tout ça grâce aux antifas. Oui monsieur, je ne suis pas toujours d'accord avec les antifas, mais c'est quand même eux qui ont fait que cette situation et ce quartier soient encore vivables, à l'inverse de monsieur Touraine. Donc oui, l'extrême droite s'est beaucoup développée à Lyon, grâce entre autres à la passivité des hommes et des femmes politiques, les colons, les Touraine comme nous venons de voir, les Kimmerfeld et les autres, qui du coup se retrouvent les alliés, volontaire ou pas, alors moi je pense volontaire, de l'extrême droite, et pas de l'ultra-droite, hein, ce sont bien des fachos traditionnels de l'extrême droite, n'inventons pas des mots inutiles pour qualifier des gens dont on possède déjà plein de mots pour les qualifier, l'extrême droite, les fachos, tout ce qu'on veut.
Je rajouterais qu'il y a la plume noire, je ne sais pas si tu l'avais dit, qui s'était fait attaquer aussi.
D'ailleurs, sous la protection, quelque part, de la police, puisque la police avait laissé partir les fachos et les avait laissés revenir attaquer la librairie. Voilà, les amis de Touraine, effectivement, sont responsables de tout ça.
Alors, je tiens aussi à préciser que quand on est dans la rue, on se tient côte à côte et sans souci, à côté des antifas. C'est juste que, comme on est des gens très politisés et très agaçants, on a toujours du bisbille et qu'on aime bien les gratouiller nos petites différences. Et ça n'empêche pas l'amitié qu'on peut leur porter.
Voilà, tout à fait. Et on va aller voir du côté de Saint-Étienne ce qui s'y passe. Et Saint-Étienne est en train de basculer du côté de 1984. Non pas l'année, mais le roman de George Orwell. Puisque c'est la quadrature du net, ça va être l'essentiel de mes infos viennent de là, de la quadrature du net, qui a publié et analysé des documents qu'ils ont obtenu notamment auprès de la mairie de Saint-Étienne, ah quelle belle ville, sur un projet qui s'appelle le Safe City. Ah oui, à Saint-Étienne comme ailleurs, quand on fait un truc un peu hype, un peu moderne, on utilise de l'anglais, parce que les mots français sont has-been, vous l'avez compris.
Tu sais que moi j'aime beaucoup.
Ouais, moi aussi j'adore les anglais.
J'adore placer de l'anglais partout.
Alors, au début du mois de mars, la mairie de Saint-Étienne a annoncé prévoir installer, au titre d'une expérimentation, ça c'est le mot à la mode aussi, c'est français par contre pour le coup, plusieurs dizaines de microphones dans un quartier de la ville afin d'en capter, je cite, les bruits suspects. et d'aider à l'intervention plus rapide des services de police. Donc la quadrature du net a posé des questions autour de ces installations de micros liées à ce fameux terme, à cette fameuse expérimentation de smart, de safe city. Oui, il y a l'autre terme aussi, c'est smart city qui est utilisé. Là, c'est safe city. Alors, la CNIL a décidé de ne pas répondre. Elle a botté en touche. Par contre, la ville de Saint-Étienne a joué le jeu. Elle a renvoyé 200 pages de communiqués, de rapports, de comptes rendus de réunions, tout ce qu'elle avait, en se disant, de toute façon, on leur envoie tout ce qu'on a. On est transparent, mais ils vont jamais avoir le temps et l'envie de lire tout le truc. Eh ben non. La quadrature du net a bossé, et bien bossé, et on a plein d'analyses de ces documents. Je vais vous résumer ça vite fait. Alors, on apprend, par exemple, que comme ce qui avait été annoncé, il y a une expérimentation qui est prévue en 2019, vraisemblablement avril-mai, en ce moment, ou bientôt. Une expérimentation de type donc Safe City, dans le quartier qui s'appelle Tarentaise-Beaubrun-Courriot, donc quartier qualifié dans les documents de quartier de reconquête républicaine. Ça fait partie aussi du dispositif de police de sécurité du quotidien. Donc cette reconquête-là, elle consisterait à la pose de capteurs sonores. Alors dans les documents, ils n'utilisent pas le mot micro, hein, non, parce que ça fait tout ça un peu espion, on écoute les gens. Donc on remplace par capteurs sonores pour que ça choque pas. C'est la même chose, bien évidemment. Dont l'intelligence, puisqu'on met de l'intelligence dedans, permettra, je cite toujours les documents qu'ont récupéré la coordonnée du net, de générer une alerte dès lors qu'ils détecteront certains types d'anomalies sonores. Et là, il y a une liste. Je vous la donne pas complète, mais rien qu'il y a ce qu'il y a dedans, ça fait marrer. Coup de feu, bon, cri, perceuse, meuleuse, klaxon, coup de sifflet, bombe à aérosol, ah, ça c'est pour les taggeurs, ça fait du bruit la bombe à aérosol, crépitement, enfin, etc., etc. Bref, en fait, tous les bruits en fait, que les gens peuvent faire dans la rue sont listés. Ensuite, l'alerte, elle va être remontée dans une plateforme centralisée à la disposition des forces de répression, dites la police, qui pourra utiliser le système ensuite de vidéosurveillance pour aller voir exactement à quoi correspondent ces bruits et qu'est-ce qui se passe, pour savoir s'il faut envoyer une patrouille de flics. Les données serviraient aussi à alimenter une plateforme. Alors c'est déjà mis en œuvre par Suez, en partie dans la ville de Saint-Étienne, dans un projet qui s'appelle Digital Saint-Étienne. Alors je vous rappelle que digital, ça veut dire doigt en anglais, en français. Donc c'est un projet, le doigt de Saint-Étienne. Ah ben je suis désolé, hein, voilà. C'est comme ça.
Oui, mais c'est digital.
Voilà. Le toucher rectal est un acte digital, je vous le rappelle. Enfin bon, bref, ils mélangent l'anglais et le français, ils ne maîtrisent rien de ce qu'ils font, hein, ces imbéciles. Des imbéciles qui font quand même très peur. Donc l'objectif, c'est d'expérimenter les conditions d'enregistrement et de mise en forme, je cite toujours, des événements collectés en vue de la visualisation sur une carte, puisqu'ils vont positionner sur une carte tous les bruits qu'ils vont entendre pour faire réagir la police. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'il va y avoir, ce qu'ils ont analysé. Mais en fait, c'était encore pire dans le projet de départ. Puisqu'au départ, il y avait deux phases. La première phase avec l'installation des fameux capteurs sonores. Et une deuxième phase avec l'utilisation de drones automatiques équipés de caméras. Alors, ils ont pensé à mettre des fusils mitrailleurs dessus, mais c'était pas autorisé, hein. Bon, bref. De caméras pour aller tout de suite voir ce qui se passait. Et ensuite, une alerte était annoncée. Et il y avait aussi l'idée d'une application du type, je cite le mot anglais, reporty, c'est les applications de dénonciation là, que les citoyens ont. Attention, là, il y a quelqu'un qui fait pipi par terre, ou il y a un mec qui boit de la bière, enfin voilà, des choses comme ça. Et ça a été abandonné parce que c'était trop compliqué pour l'instant à cause des contraintes légales, juridiques. C'est ça qui a limité, c'est pas du tout leur problème moral. Ils n'ont pas de morale, ces gens-là. Bref. On a dans cette expérimentation de Saint-Étienne, dans ce truc qu'on appelle les Safe Cities, l'idée de rendre des quartiers morts, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait de vie, il ne faut pas qu'il y ait de bruit, il faut qu'il n'y ait rien, il faut qu'il ne se passe plus rien. On attaque les taggeurs, les gens qui parlent, qui discutent, etc. Alors, ça avait aussi un autre intérêt, ce qu'on retrouve dans les documents, et c'est une sorte de concours en fait. C'est à qui aura sa ville dite moderne, numérisée, digitale, comme ils disent avec des doigts là, digitale pour numériser bien évidemment, en concours avec d'autres villes qui sont déjà un peu en avance comme Nice, etc. Donc c'est ça aussi l'idée. C'est d'arriver en tête de ce qu'ils appellent l'innovation technologique. Or, ce n'en est pas du tout de l'innovation technologique. Les capteurs sonores, on sait faire depuis longtemps, c'est pas nouveau. Tout ce qu'ils utilisent, c'est pas nouveau. C'est juste l'utilisation en tant que surveillance massive de la population qui devient une innovation mais qu'on retrouvait dans le roman de 84 de George Orwell. Donc du coup, on se dit, c'est quand même pas si novateur que ça, ce qu'ils veulent faire. Ils veulent juste contrôler l'ensemble de la population. Et en plus, pour l'instant, il y a déjà donc une partie mise en place. C'est mis en place par une... et c'est donné... c'est une société qui fait ça, qui s'appelle Serenicity, qui est dirigée par Guillaume Vernet-Caron, qui est très connu dans la région, puisqu'il est patron de Vernet-Caron, un fabricant d'armes et de flashball. Voilà, un mec sympa, hein. ils ont l'air sympa dans sa famille. Voilà. Et cette société a pour but de sortir du militaire pour aller aussi dans le civil. Bon, alors, le civil ressemble beaucoup du coup au militaire, quand même, dans ces villes fliquées. Voilà. Donc, bref, ce discours officiel qui est très caché, en fait, parce que la ville ne communique pas. Elle a juste fait un tout petit communiqué à un moment en disant on lance un projet. Il n'y a pas de détails. Et c'est expliqué, d'ailleurs, dans les documents. Le but, c'est d'en parler qu'après, que bien plus tard, pour pas faire peur aux populations, parce qu'ils savent qu'il y a de la résistance. Alors, c'est tout expliqué aussi. Alors, je vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Mais, en fait, le but, c'est de ces campagnes de surveillance de la population, c'est d'accompagner la gentrification, notamment de ce quartier avec de reconquête républicaine là, c'est pour en virer ceux qui font du bruit, c'est-à-dire entre guillemets les pauvres, les étrangers, voilà, tous ceux qui ne sont pas dans l'idéal de ce maire qui est, on rappelle, membre du parti Les Républicains. Donc voilà, alors il y a plein d'autres choses dans le rapport, je ne détaille pas plus. On n'a pas trop d'infos sur les données personnelles, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Alors l'idée, c'est plutôt qu'ils n'enregistrent pas, en fait, qu'ils détectent un son et qu'après ils interviennent, parce que c'est trop compliqué, il faut demander à la CNIL, etc. Mais en fait, on ne sait pas à quel moment ça basculera dans la phase 2, c'est-à-dire la phase où ils vont enregistrer, ils vont faire la détection sonore, hein, puisqu'on sait faire maintenant. On peut reconnaître les voix avec des logiciels. Bon, bref, une société totalitaire se met en place et ça commence peut-être à côté de chez nous, à Saint-Étienne.
Quand même, moi je suis persuadée que l'innovation, elle viendra quand il y aura un drone qui prendra la place, par exemple, de quelqu'un qui... Moi, oui, j'ai une voisine dans ma rue. Quand il y a des hommes qui font pipi contre un mur sous les fenêtres de quelqu'un, et que ça pue derrière, en tout cas, c'est notre avis. Comme, bon, elle a un petit grain, cette dame, bah, elle leur hurle dessus, puis elle est capable d'aller leur choper l'engin pour s'énerver. Et ben, je pense que l'innovation, enfin, pour parce qu'elle est énervée, parce qu'elle veut les virer. Et ben, l'innovation, elle viendra qu'à la place de cette charmante voisine qui fait fuir les malotrus. Et ben, on aura un drone qui viendra dire tout, 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 vous êtes en train d'uriner. Tout, 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 vous avez une amende de tout, 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 tout. Ça, ce sera l'innovation, tu vois.
Ça va être beau.
Ça sera moins sympa.
Ouais.
Mais ça va être chouette.
Et dans la série Les contrôles des populations, Le Canard Enchaîné l'a révélé hier, il y avait déjà des bruits qui couraient depuis un petit moment, puisqu'on sait maintenant que les services hospitaliers ont bien reçu la consigne d'inscrire dans un fichier les noms des gilets jaunes blessés à l'occasion des manifestations, bien que Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, a nié le contraire depuis le début. Comme quoi, lui aussi, l'honnêteté, ça semble pas être sa caractéristique principale. Donc cette mesure, elle inscrit donc les identités des victimes en temps réel dans un fichier qui s'appelle le SI-VIC, fichier dont l'autorisation date du 7 juillet 2016 et qui à l'origine servait au ministère de la Santé pour récupérer le nom des victimes des attentats, pour aller plus vite et pour mieux gérer les indemnisations et pour éviter les escrocs d'indemnisation aussi, j'imagine. Et sauf que voilà... plusieurs lois plus loin, notamment celle du 23 décembre 2016, ont permis l'utilisation de ce fichier dans des situations exceptionnelles. Il n'y a plus du tout la mention du terrorisme. Situation exceptionnelle, c'est finalement tout ce qui peut arriver qui n'est pas normal dans une rue. C'est-à-dire à un moment, un manifestant, tac, c'est une situation exceptionnelle. Donc voilà, il y a bien eu fichage des gilets jaunes, ou en tout cas des personnes qualifiées de gilets jaunes, c'est-à-dire manifestants blessés lors des rassemblements et des manifestations. Voilà, c'est juste un contrôle encore supplémentaire de la population contre les gens qui font un petit peu peur.
En tout cas, on peut quand même se dire que ça fait 6 mois qu'il y a des gens qui sont dans la rue. pour réclamer des choses et d'autres, et que en près de 12 heures, on a obtenu des sommes gigantesques pour sauver donc le bâti français, parce qu'il paraît que c'est du trésor national. Ce qui est intéressant de se poser là comme question, c'est quand même, c'est quoi le patrimoine qu'on nous impose en France? C'est un peu comme la Joconde, c'est-à-dire qu'on nous impose des trésors nationaux sur une représentation spécifique, et c'est toute la notion du patrimoine. Si vous avez fait des études en histoire, en sociologie, en anthropologie, vous savez que c'est ces choses-là dont on parle aussi. C'est-à-dire qu'il y a le patrimoine national, et on ne vous demande pas votre avis, à vous, citoyens, citoyennes de la France, habitants et habitantes de la France. On nous impose un patrimoine comme une histoire collective et commune, et comme quelque chose auquel il faut faire attention. Si vous avez déjà été au musée voir la Joconde, vous savez que c'est en fait un tout petit tableau.
Ah, c'est pas si petit que ça, mais c'est
pas... quand même, hein. Ouais. Et qu'on prend très peu de plaisir à le voir, parce qu'il y a beaucoup de gens et que c'est derrière une vitre. Ah, non, c'est juste pour vous enlever l'envie d'y aller, parce que d'un seul coup, vous dites que vous avez raté un truc dans votre vie. C'est pas grave. Par contre, on nous impose ça comme un patrimoine, alors pourquoi pas? Simplement, il y a d'autres choses en France qui sont pas partagées, et c'est bien aujourd'hui ce que certains... Il y a une église, je ne sais plus où, là, dans la nuit, une nuit de janvier, l'église qui était absolument ravagée. Ils ont obtenu 25 000 euros de dons, dont près de 5 000 balles dans Suisse. Quand même, hein, c'est-à-dire que c'est une grosse somme sur cet argent-là. Le prêtre qui est dans cette église dit que, bah, avec même 1% de la somme qui vient d'être réunie, on pourrait... améliorer tellement son église que ça serait absolument incroyable. Et en fait, oui, c'est-à-dire que son patrimoine à lui, il existe dans ce village, dans cet endroit, et qu'aujourd'hui, il y a plein d'endroits qui sont à sauvegarder, et que notre patrimoine, il est là aujourd'hui très parisien, sur une notion très précise, et qu'il n'y a pas de discussion là, et que le grand débat national, ça aurait pu aussi porter sur ces questions de représentants, de représentation collective, dont le patrimoine, et ce n'est pas le cas.
Oui, et puis ça permet à tous les imbéciles religieux de remonter au créneau, parce que ce n'est pas simplement un édifice public, c'est un édifice religieux. D'ailleurs, on le rendrait public. Qu'on fasse du patrimoine, ce serait moins gênant que de financer une religion, parce que là, ça finance une religion. L'église catholique n'aurait pas les moyens, aujourd'hui, de gérer toutes les églises qu'elle a. Heureusement que c'est l'État qui gère, et ça, c'est quand même une absurdité absolue. Transformer Notre-Dame en bibliothèque, en je ne sais quoi, serait quand même largement plus classe que d'en faire un lieu de culte, quand on sait que les cathos ont tué des millions de personnes.
Alors c'est bien pour ça que M. Wauquiez veut soutenir évidemment cette reconstruction. Il faut juste aussi se souvenir que les 2 millions qu'il veut attribuer à cette reconstruction, c'est 2 millions qui n'iront pas à d'autres projets locaux.
Point. Oui, il a enlevé de toute façon les budgets de l'écologie, les
budgets
aux assos LGBT.
Non, parce qu'on peut critiquer les pinots et les machins et les trucs, mais à la rigueur, c'est... voilà. Hein, bon. On va continuer à parler de ce qui se passe ailleurs dans le monde, et on va commencer avec l'Égypte.
Eh oui, parce que le Parlement égyptien a voté mardi dernier, donc on était le 16 avril, une révision de la Constitution, qui avait déjà été pas mal modifiée, celle de 2014, en accordant la possibilité à Abdel Fattah al-Sissi, le dictateur en chef, d'étendre son actuel mandat de 4 à 6 ans. Ainsi, jusqu'à présent, la Constitution limitait le nombre de mandats à 2, et le maréchal pourra désormais se présenter un troisième mandat. C'est la classe.
Ça, c'est la démocratie, quoi.
De 6 ans. Donc, du coup, il est au pouvoir au moins jusqu'en 2030. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. En tout cas, quand on s'appelle Al-Sissi, parce que pour la population égyptienne, beaucoup moins. Alors, 2/3 des élus présents dans le Parlement ont approuvé. Il y a un gros bloc pro-Sissi, de toute façon, maintenant, au Parlement. Alors, il paraît qu'il y aura un référendum d'organiser. Alors, il y a eu pas mal d'autres choses qui ont été modifiées dans cette constitution, notamment le rétablissement du Sénat, notamment des pouvoirs supplémentaires donnés au président dictateur, donc ce fameux Al-Sissi, sur la justice, puisque c'est lui qui va nommer les juges. Hein, donc comme ça permettra d'avoir le pouvoir judiciaire à sa botte, et ça ne sera plus donc un contre-pouvoir. En fait, bon, bref, ça va jusqu'au bout de la démarche de retransformer le régime issu de ce printemps arabe, de cette révolution, qui avait certes amené Mohamed Morsi, un islamiste modéré, je ne sais pas si on peut utiliser modéré, mais un islamiste au pouvoir, mais il avait été élu, Morsi, contrairement à lui, et à l'élection suivante, il n'aurait sûrement pas gagné d'ailleurs, le Morsi. Sauf que là, avec Al-Sissi, les élections, c'est fini, c'est bloqué, il a été réélu la dernière fois, on vous rappelle, à 97% des voix. C'est digne de l'Union soviétique, puisque aujourd'hui, l'opposition est écrasée. Quand elle n'est pas mise en prison, elle est juste muselée. Alors pourtant, il y en a qui résistent encore, il y a le bloc 25-30, il s'appelle comme ça, qui a essayé de bouger un peu pour montrer qu'ils étaient encore vivants, mais ça semble très difficile. Donc voilà, la situation est très très critique. Sissi a choisi donc on le sentait bien, l'ordre contre la liberté, avec une justification aussi économique en disant, voilà, il faut qu'il y ait une stabilité politique pour que l'économie fonctionne bien. Sauf que c'est pas du tout le cas. La croissance économique marche pas du tout en Égypte. La dette augmente, le secteur public est en crise profonde. Donc en fait, même sur ce plan-là, ça fonctionne pas ce qu'il fait. Or, les régimes totalitaires sont capables des fois de faire fonctionner l'économie. Lui, il n'y arrive même pas. Il a aucun point positif dans tout son bilan. Ça n'en reste pas moins l'ami de Emmanuel Macron, hein, donc quelque part de la France, puisqu'il est censé représenter la France. Donc voilà, ça va pas changer tout de suite, puisque personne ne s'est vraiment opposé à ce qui se passe. Il faut dire qu'il est ami avec, donc je l'ai dit, Emmanuel Macron et le Trump, le président américain. Donc l'espoir de changement, à part une nouvelle révolution, et ça va être compliqué vu que beaucoup de gens sont en prison. Voilà, l'Égypte qui s'enfonce de plus en plus dans la dictature.
Alors, je vais vous parler d'un sujet qui est sorti sur Le Monde. Si Le Monde suit cette affaire, c'est parce que le 10 avril dernier, il y a eu une tribune publiée par 14 représentants des peuples indigènes du Brésil qui ont globalement expliqué, je vais vous la faire simple et courte, que l'arrivée de M. Bolsonaro provoquait une apocalypse environnementale.
Oui.
Et pour leur peuple.
Bah oui.
Simple, efficace. Alors c'est une tribune, je vous invite à aller la lire. Le Monde donc suit un petit peu ce qui se passe concernant le Brésil, bien évidemment, et nous raconte dans un article repris par F de Souche. Et alors c'est marrant parce que cet article est repris par F de Souche, sans analyse et sans critique, sans commentaire, mais parce qu'en fait ça parle d'un gars d'extrême droite. Ah, vous voyez un petit peu la logique ?
Oui, F de Souche, on rappelle, c'est un site d'extrême droite.
Voilà, bah, oui. Voilà, c'est très clair. F de Souche, français de Souche. Hein, voilà. Alors, on a appris lundi que le Muséum d'Histoire Naturelle de New York annulait une petite sauterie organisée par la Chambre de Commerce du Brésil et des États-Unis d'Amérique. Vous savez, ça existe, hein, y a la franco-américaine, la franco-allemande, tout ça. Donc là, c'est une chambre de commerce brésilo-américaine. Et cette chambre organise tous les ans une petite sauterie pour remettre un prix à la personnalité de l'année. Alors il y a un Brésilien et un Américain, ou une Américaine, hein, des États-Unis d'Amérique qui sont choisis. Et puis il y a des gens, évidemment plein de pognon, qui viennent assister à la petite sauterie, à un gala. Alors on parle, d'après les chiffres du Monde, de une petite place à 30 000 dollars.
Ah oui.
Ça fait à peu près du 26 500 euros.
Ça fait cher la sauterie.
Hein ? Ah, bah, je vous ai dit, une petite sauterie. Donc, cette sauterie était organisée au Muséum d'Histoire Naturelle de New York et on a donc appris que le muséum refusait cette petite sauterie.
Bah, pourquoi donc ?
Parce que le prix décerné le 14 mai prochain allait être remis à qui ? À M. Bolsonaro.
Ah oui, alors pour un musée d'histoire naturelle, ça allait faire un petit peu tâche d'avoir un destructeur de l'environnement.
C'est exactement les arguments qui sont amenés par le muséum, puisque, alors il y a la forêt amazonienne, il veut mettre des mines, encore plus que ce qu'il y en a déjà, et puis il veut pousser les peuples indigènes.
Ouais, voire s'en débarrasser. Hein.
C'est ce que je sous-entends par pousser. Donc il n'est pas trop écolo.
Ça c'est sûr.
L'environnement, voilà. Ah, mais c'est, avec les fachos, ce qui est bien, c'est qu'au moins c'est très complet. Hein, il y a la société, on prend plein la gueule. En plus, c'est un croyant quand même conservateur,
un évangéliste,
fondamentaliste. L'économie va en prendre plein la gueule, l'environnement va en prendre plein la gueule. Le fascisme, c'est bien, c'est complet, complet, complet.
Oui, mais les entreprises vont s'enrichir.
Ah, en tout cas, ses amis.
Parce que c'est l'ami des entreprises.
Parce que comme il est facho, il faut être son ami. Parce que si tu es un opposant, je te rappelle que tu as beau être un capitaliste riche, comme dans certains pays, tu risques plutôt la prison. En Russie, par exemple, c'est ce qui se passe. Hein. C'est pas si simple la vie. Enfin voilà, c'est quand même plutôt une bonne chose qu'il y ait des réactions à New York, pour dire, ben non, cassez-vous. Voilà. J'avais juste ça à dire.
Eh ben, on va aller au Yémen, maintenant. Je vous rappelle que depuis le 26 mars 2015, l'Arabie Saoudite, à la tête d'une coalition au départ de 10 pays arabes, conduit une opération militaire au Yémen dans le but de détruire la rébellion des méchants Houthis. Alors, ils sont méchants parce qu'ils sont, chiites, donc soutenus par l'ennemi et l'Iran. Voilà. Aujourd'hui, cette coalition a réduit comme peau de chagrin, puisqu'il ne reste plus que 4 pays. L'Arabie Saoudite, donc, les Émirats Arabes Unis, le Soudan et le Bahreïn. On pourrait rajouter, et la France. Comment ça, et la France? Non mais attends, c'est quoi cette propagande? Eh oui, on a appris, grâce à une note très sérieuse et officielle, même si on l'a appris officieusement, de la direction du renseignement militaire, qui confirme bien que l'Arabie Saoudite emploie des armes produites et vendues par la France lors de cette guerre au Yémen. Cette note de la direction du renseignement militaire a été transmise à la présidence de la République et à la ministre de la Défense, Madame Parly. Je vous dis quand? Je vous dis quand? Hop, en septembre 2018. Il y a un rapport de 15 pages qui détaille tout. Et là, le rapport est sorti. C'est un truc qui s'appelle Disclose. C'est une sorte de média à but non lucratif qui travaille sur pas mal de sujets. Et donc, qui a récupéré ça. On ne sait pas comment, mais ils l'ont récupéré. Et qui a publié pas mal de choses autour de cette note classée confidentielle défense. Avec pas mal de tableaux. Alors, il y a plein de détails. Hein. Du coup, on apprend bien. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais que les chars Leclerc, les obus flèches, les Mirage 2000, les radars Cobra, les blindés, les hélicoptères Cougar, Dauphin aussi, les canons César, surtout les canons César, participent bien à cette guerre. Et il y a pas mal d'exemples qui sont donnés en fait dans le rapport, hein, puisque la direction du renseignement militaire, en fait, c'est des gens qui sont plutôt sérieux. Hein, quand ils font, ils amènent des preuves. Ils disent pas, on pense que... Non, ils amènent des preuves. Alors ils ont par exemple une preuve d'un tir d'artillerie saoudien qui a tué 2 enfants et blessé plusieurs adultes dans le nord du Yémen le 14 juin 2018 à l'aide des canons de la France, enfin vendus par la France. De même, un village bombardé qui s'appelle Bani Faïd, dans le district de Midi, ça s'appelle comme ça, les canons César étaient à l'œuvre, puisqu'il y avait d'autres canons américains, britanniques ou chinois, mais ils étaient beaucoup plus loin et leur portée ne permet pas d'atteindre le village. Donc c'est bien les canons français qui ont bombardé le village. De même, le 25 août 2018, un tir d'artillerie de la fameuse coalition a visé la ville de Harad. Donc là, il y a eu au moins un mort et 3 blessés dans ce bombardement. Là aussi, pile poil dans la zone de tir des canons César vendus par la France à l'Arabie Saoudite. Bon bref, il y a plein d'exemples comme ça, je ne vais pas tous les faire. Il y a eu déjà plusieurs articles et plusieurs reportages qui incriminaient bien les armes vendues par la France à l'Arabie Saoudite. La France disait toujours non, c'est des armes de défense, c'est sûr, hein, c'est clair. Ils ne s'en servent que pour se défendre. C'est tous les jours que l'Arabie Saoudite est attaquée, c'est vrai. Hein. Et sauf que là, non, maintenant on a la preuve que ça... Que c'est vrai et que les armes françaises servent bien à attaquer. Et la ministre des Armées, Madame Florence Parly, a réagi à ces informations et elle dit, je cite, « À ma connaissance, ces armes ne sont pas utilisées de façon offensive dans cette guerre au Yémen et on ne peut donc pas de façon mécanique, en tout cas moi je n'ai pas d'éléments de preuve permettant de dire cela, que des armes françaises sont à l'origine de victimes civiles au Yémen. » Donc cette déclaration, elle ne date pas d'il y a 6 mois, elle ne date pas il y a 2 ans, elle date aujourd'hui. Donc, la note qui a été divulguée là, par Disclose, dont je vais vous donner quelques éléments, elle date de septembre 2018. Donc, elle est au courant depuis septembre. Et là, elle nous dit, j'ai pas de preuves. Or, la note, c'est un ensemble de preuves. Donc, voilà, c'est juste une belle menteuse. Hein, je pense qu'on ne peut pas dire autre chose. Alors, après, elle est aussi dans le principe... qui existe dans pas mal de pays concernant l'armée, c'est que l'armée assassine, l'armée tue, l'armée et on dit rien. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la grande muette, c'est le nom en France donné à l'armée. Et il y a le même système sur le capitalisme des armes. On fait tous, et les gouvernants, et donc la ministre de la mort, hein, de la guerre, fait semblant aussi. Elle ferme les yeux, elle ne voit pas. Elle vend des armes et elle pense que les armes servent à faire joli dans une vitrine. Voilà. Donc, c'est. Voilà. Alors, je pense que, elle ment, puisque là, on a la preuve flagrante qu'on a des infos précises sur l'utilisation des armes. Et en plus, elle se fout de notre gueule, parce qu'on a effectivement les infos sous les yeux. Et là, dire que si nous, on les a, et elle les a depuis 6 mois, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Mais bon, non, vraisemblablement, elle continue. Merci, Florence Parly. Comme quoi, hein, l'égalité homme-femme, quand c'est dans la bêtise, c'est dommage. Hein, ça nous manquait pas. Avant, on avait un gros militaire qu'on détestait. Et maintenant, on a une ministre qu'on déteste. Vive l'égalité.
Tu as moyen de faire très vite sur Israël ou tu veux pas faire très vite et on passe à autre chose?
Non, je le ferai si on a du temps à la fin.
Oui. Alors, on va passer à une petite rubrique de qui rachète qui. On va commencer avec Nature et Découverte. On a appris mardi que Fnac Darty, hein, vous savez, ce machin qui est devenu un gros bidule, est en train de négociation pour se farcir Nature et Découverte. C'est une enseigne qui possède aujourd'hui 97 magasins en Europe. Pas rien. Je rappelle, Nature Découverte, si vous ne connaissez pas, c'est des produits naturels et du bien-être.
Ouais.
C'est avec des coussins qui bougent.
Avec des gadgets et tout.
Voilà. Ouais. Bon, l'idée, évidemment, pour Fnac Darty, c'est de se développer sur une base de produits qui n'est vendue par aucune des Fnac et des Darty. Mmh. Hein, voyez. D'élargir donc sa base de produits pour avoir toujours plus de consommateurs et de consommatrices. C'est assez simple. Le communiqué est d'une... Oui. C'est limpide.
C'est du capitalisme.
De pourquoi, de comment. On pourrait... voilà, l'idée, c'est vraiment de se diversifier, de profiter aussi d'une structure qui va pas trop mal, et qui est leader sur le marché en France, hein, du produit naturel et du bien-être, avec les coussins, tout ça, avec des billes nucléaires qui bougent.
Non, parce elles sont pas nucléaires, si.
Bah non, mais par contre, il faut de l'électricité nucléaire pour les faire bouger, parce que la plupart des gens étant à l'électricité nucléaire. Voilà. Enfin bon, je dis ça. En tout cas, cette intégration Fnac Darty se passe plutôt bien. On avait pas mal causé ici. Il paraît que le groupe a quadruplé ses bénéfices en 2018.
Oh.
Alors, on parle quand même de chiffre d'affaires en milliards, hein, je vous le rappelle. 7 milliards 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein, donc voilà, une hausse de 0,4%. Bon. Mais par contre, on a quadruplé les bénéfices. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein, à Fnac Darty. On est tout content, parce que ça veut dire que tout s'est bien passé. Bon, il paraît qu'il y a eu des circonstances exceptionnelles qui ont permis de bonnes ventes, hein, dans les deux enseignes. Donc, tout va bien. Et puis, donc, ça leur permet comme ça de se diversifier avec ce rachat de Nature et Découverte. Autre marque. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je vous parle de marques qui sont un peu dites belles, vous voyez. Des belles notes dans quand on fait des enquêtes pour savoir si jamais une marque est bien perçue par les consommateurs et les consommatrices, ben voilà, ça s'en fait partie. Et ben une autre aussi que vous retrouvez dans les magasins qui s'appelle Michel et Augustin. Donc c'est des yaourts, des gâteaux, des choses comme ça, avec toujours un marketing très sympathique et très rigolo qui se veut. Hein,
on
voilà.
fait des produits simples, naturels.
Sauf que c'est pas bio, on le rappelle. Ouais. Mais comme ça. Donc on a appris par Augustin Paluel-Marmont sur BFM.
Ah, c'est l'Augustin du Michel Augustin, lui.
Ouais, voilà. Et oui, parce que c'est des vrais gens.
Qui s'appelle, t'as dit, Augustin?
Augustin Paluel-Marmont, hein, que Danone. Alors, Danone avait déjà une place à 40%, hein, mais Danone a porté sa participation à 95% du capital.
Ah, ils ont tout racheté, quoi.
Donc maintenant, on en est sûr, c'est du Danone que vous mangez et plus du Michel et Augustin.
Oui, bon, de toute façon, c'était.
Non, mais c'est important de savoir ce qu'on bouffe. Oui, alors, sauf que quand tu avais encore une participation qui n'était pas majoritaire d'une entreprise de l'agroalimentaire aussi importante que Danone, tu pouvais quand même te dire qu'il y avait encore Michel et Augustin, peut-être quelque part. Bon, à 95%, on peut penser surtout que c'est le fonds Danone Manifesto Venture qui est derrière. Hein, voilà. Bon, là, c'est quand même de développer la marque à l'international, parce qu'a priori, Danone a l'air de penser que Michel et Augustin vendent trop sur le territoire. Francophone, essentiellement en France, en Suisse et en Belgique, c'est 85% du chiffre d'affaires qui est réalisé sur ces trois secteurs. Donc voilà, c'est de y aller un bon coup. Voilà. Par contre, Danone, c'est moins bien que Darty Fnac, ou Fnac Darty plutôt. C'est que là, il y a une baisse, hein, au premier trimestre, ça se passe pas très bien. Oh, on attend une accélération au deuxième trimestre. D'après ce que j'ai pu en lire, il y a une croissance organique qui a fortement ralenti quand même, je tiens à vous le signaler.
Si vous avez des actions Danone, il faut vendre.
Alors, le truc en fait, c'est que Danone se plante sur... alors, je vous rappelle qu'il y a un boycott de Danone au Maroc, je ne sais pas si vous saviez ça. Donc ça ne se passe pas bien au niveau des produits laitiers pour Danone au Maroc. Et puis en Chine, en fait, alors, Danone est toussé par plusieurs problèmes. Suspicion de certains produits pour les petits. Pour, hein, les produits pour les bébés qui étaient en forte croissance en Chine puisqu'il n'y avait pas l'habitude de la consommation des produits laitiers et puis avec l'arrivée des multinationales ça avait augmenté et puis il paraît qu'il y a une baisse de la natalité qui gêne en fait l'extension des produits de l'agroalimentaire en Chine et en fait en Chine il y a plein de gens hein, qui s'en prennent plein la gueule parce que je vais passer maintenant à Amazon qui a décidé de fermer son site de vente en ligne en Chine.
Oh.
Et oui.
Ils sont jamais arrivés en fait là-bas.
Et non, mais il y a trop en fait, il y a des gens sur place
qui
Alibaba, il y a JD.com, des gens qui sont beaucoup trop forts pour Amazon. C'est incroyable d'arriver à faire plier une telle multinationale.
Ça nous fait plaisir, c'est peut-être le seul endroit du monde où ils y arrivent pas.
Voilà, donc Amazon.cn. c'est bientôt fini. Donc là, il paraît que la plateforme a prévenu un petit peu ses vendeurs pour leur dire, attendez, vous avez bientôt la plateforme Amazon va fermer. Il va falloir que vous trouviez d'autres secteurs pour vendre vos produits. Mais ce n'est pas rentable, il n'y a pas de croissance, il n'y a rien qui se passe en Amazon en Chine. Mais il y a plein d'entreprises comme ça qui se cassent la figure en Chine. Il y a PSA, par exemple. PSA, vous savez, les voitures. Mmh. Eh bien, ça ne marche pas en Chine. Oh, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui s'étaient dit, on va aller là-bas, ça va bien marcher. Sauf que, un, la Chine a su développer sa propre économie, ses propres marques, a su s'installer. Et dans certains secteurs, comme la vente en ligne, assez durablement. Et des multinationales aussi fortes qu'Amazon n'arrivent pas se développer. Mais c'est même pas que ça a baissé ou quoi que ce soit, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à développer le site de vente en ligne d'Amazon en Chine. Donc, ouais, voilà.
Allez, Londres.
Allez, Londres, très très rapidement, juste pour dire que là, c'est la semaine d'Extinction Rebellion. Cette organisation qui s'était fait pas mal fait connaître en France dernièrement pour les photos, on les avait vues à poil à la Chambre des communes. Mmh. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mmh. Alors, pas tout à fait à poil. Oui. Il y en avait qui avaient des culottes, d'autres des petits strings, mais il y en avait quand même un ou deux qui étaient avec le cul très nu, quand même. C'est le principe du string, vous allez me dire. Donc là, l'idée, c'est de dénoncer l'inaction du gouvernement face au changement climatique. Alors, pour faire parler tout de suite d'Extinction Rebellion et de la répression, c'est qu'il y a près de 300 militants et militantes qui ont déjà été arrêtés.
Ouais.
Alors que ça a commencé là, en début de semaine, on n'est que jeudi. Donc rien n'est terminé en termes d'arrestation. Alors bon, il faut dire qu'il y a tout un tas de banderoles qui ont été développées à Londres, dans la capitale. Il y a des tentes qui ont surgi sur les trottoirs pour bloquer des passages. Et c'est marrant parce qu'il y a des endroits où ils ont bloqué des ponts, donc ils ont bloqué les bagnoles. Mais ils ont laissé passer, ils et elles, les militants et les militantes, ont laissé passer les cyclistes, les piétons et les piétonnes. Les gens sur des trottinettes, les gens sur des skates, tout ce qui n'avait pas de moteur, donc qui ne pollue pas. C'est marrant quand même. Ouais. Donc c'est des actions assez rigolotes. Il y a eu des blocages de trains, des blocages donc de bus. Bon, globalement, ils ont foutu un sacré merdier, on peut le dire quand même. Alors, il y a des revendications. C'est la proclamation d'un état d'urgence climatique et écologique, l'élaboration d'un plan d'action pour réduire à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2025 et la création d'une assemblée citoyenne sur les questions de justice climatique. Donc, il y a des demandes assez précises et c'est pour ça qu'il y a des actions de rue. Très forte, de blocage. Voilà, personne n'est pris en otage. Je tiens tout de suite à le signaler. Parce que quand on lit certains articles, on a l'impression que les Londoniens et les Londoniennes se retrouvent dans un bazar, tout ça, tout ça. Parce qu'évidemment, la police dit que quand on bloque des bus, eh ben, il y a tout plein de passagers qui sont bloqués. Et donc, on aime à nous donner dans la police et les médias associés, évidemment, le nombre de passagers que tout ça a pu bloquer. Nombre qu'évidemment, je ne vais pas vous transmettre. Reste que ces militants et ces militantes sont quand même plutôt pacifiques et que, en fait, pacifistes, parce que pacifique, ça ne va pas faire pareil, et que, il se faut quand même arrêter. Ouais. Alors, il y en a quand même cinq qui ont été arrêtés et qui risquent beaucoup plus que les autres, puisqu'ils s'en sont pris à la Royal Dutch Shell.
Oui, mais il ne fallait pas toucher à Shell, là.
Et alors, c'est très très grave ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont tagué.
Fait
des choses de ce genre. Alors, c'est de la dégradation légère, il faut le dire, parce que même quand tu casses une vitrine, très franchement.
Oui. Et puis Shell, c'est un des plus gros destructeurs de la nature anglaise.
Et partout dans le monde.
Et partout dans le monde, c'est un pétrolier, donc c'est comme Total chez nous. C'est un des plus gros destructeurs. Et même s'ils avaient cassé des vitres, c'est rien par rapport à ce que cassent ces Shell, entreprises. Voilà. Avec, bien sûr, les collaborateurs, c'est-à-dire les automobilistes, tous ces gens-là. Mais, parce qu'ils ne sont pas tout seuls sur le coup, quand même. Mais oui, effectivement, on a la même répression finalement en Angleterre que chez nous.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est Extinction Rebellion fait partie de ces organisations qui amènent ces militants et ces militantes à risquer la prison, le tribunal, mais va dans ce sens. C'est-à-dire que leur propos, c'est de dire, tant mieux, emmenez-nous en procès. Et puis comme ça, on fera votre procès à vous.
Ouais.
C'est un risque pour les militants et les militantes qui est quand même extrêmement important. Mais ça fait partie aussi de leur manière de fonctionner.
Oui, ce qui a été fait sur les luttes OGM en France.
Tout à fait, exactement.
Alors, on va parler très rapidement de M. Blanquer. Vous savez, c'est quelqu'un qui est considéré, peut-être à tort d'ailleurs, ou à raison, c'est à vous de décider, comme étant un ministre de l'éducation. Puisqu'il a fait une réforme du bac qui a commencé il y a un an, elle arrive en première la rentrée prochaine, en septembre, et il a supprimé dans un grand discours égalitariste les sections L, ES et S en disant c'est trop discriminant, les S ils sont toujours avantagés, tout ça, on met tout à plat, il y a des options maintenant et tout va changer, voilà, ça va tout solutionner, il n'y a plus de S, plus de S, plus de L. Et là, il y a une enquête qui a été faite par le SNES-FSU, donc un gros syndicat, sur quasiment 4000 élèves répartis dans 18 lycées de France, sélectionnés sur des critères pour essayer de trouver quelque chose d'à peu près représentatif. Ils ont demandé à ces élèves de seconde quelles options ils avaient choisies pour l'année prochaine. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'avant. Donc en fait, dans l'ES, à l'ancienne, ben, on avait essentiellement des maths et de la physique. Et bien là, ils ont pris les options avec les maths et la physique, et c'est la majorité. Et en fait, on retrouve, ça s'appelle plus S, ça s'appelle plus ES, ça s'appelle plus L, mais dans le choix des options, on retrouve exactement la même répartition d'élèves, la même répartition d'orientation, on va dire, au sein même des options. Par exemple, il y a beaucoup plus de garçons dans les sections scientifiques, beaucoup plus de filles en ES et en L que de garçons. Rien n'a changé. Donc cette réforme qui a que des inconvénients quasiment, elle fonctionne même pas sur le principe qui paraissait plutôt pas mal d'essayer de décloisonner tout ça. Et en fait, ça ne sert à rien, mais on le savait déjà. Voilà, c'est une petite preuve contre M. Blanquer, avec pas mal de résistance dans la région parisienne en ce moment sur tout ça. Et puis, comme il reste 5 minutes, je vais pouvoir faire Israël. Je l'avais laissé de côté, vous avez entendu les résultats de l'élection, c'était mardi dernier je crois, à la Knesset, donc le parlement israélien. Bon, Netanyahou a gagné. Alors au départ il n'a pas gagné avec beaucoup d'avance, mais avec les alliances il a beaucoup d'avance. Alors on pourrait discuter de tout ce qui s'est passé, on va pas s'épiloguer là-dessus, mais on va constater deux choses. En fait, les deux critères primordiaux utilisés dans la campagne et qui ont permis à la droite de gagner, c'est des critères religieux et des critères de préjugés raciaux. Alors sur la religion, faut savoir que deux partis ont plutôt gagné des voix. Les partis donc religieux, le Chass, parti séfarade ultra-orthodoxe, et la faction Ashkenaz qui s'appelle Yahadut Yatora, qui ont gagné des sièges, qui ont réussi avoir 15 à 16 sièges à eux deux, donc plutôt pas mal, avec toute une campagne basée que sur la religion. Il faut voter pour nous parce qu'on représente Dieu. Il y en a même un des deux partis qui a promis aux électeurs une place au paradis s'il glissait le bon bulletin de vote. Ça fait peur quand même d'avoir dans un discours politique comme seule idée la religion. Voilà. Alors ils ont notamment le caractère sacré du Shabbat, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ne respectent pas le Shabbat en Israël, et ça énerve ces religieux. Donc c'était au cœur de la campagne. Voilà. Et la deuxième partie des idées qui ont permis à la droite de gagner, c'est sur les préjugés raciaux. Et donc ça a été essentiellement instrumentalisé par les partis non religieux, qu'on pourrait qualifier de laïcs, comme le Likoud et plein d'autres, qui ont grosso modo mis dans leurs différents programmes la question des Arabes israéliens au cœur de la problématique et au cœur de la campagne. Et notamment, le record vient du Likoud de Netanyahou, qui a beaucoup instrumentalisé la question arabe, notamment en attaquant le parti centriste Kakol Lavan, qui était son principal concurrent, en les traitant de gauchistes, alors que c'est un parti de centre-droit, hein, ils ne sont pas du tout de gauche, et en disant attention, ils vont s'allier au parti arabe et aux arabes. La même chose d'ailleurs pour les travaillistes, en disant attention, le parti travailliste, si jamais ils ont des voix, ils vont s'allier au parti arabe. Laissant entendre que s'allier au parti arabe, c'était l'horreur. C'était le truc à jamais faire, etc. Laissant bien entendre, comme d'habitude, que les arabes sont des citoyens de seconde zone. Et d'ailleurs, s'ils pouvaient s'en débarrasser, ils le feraient. Ils ont déjà essayé avec les différentes lois passées ces dernières années, est porté par le Likoud. Enfin voilà, grosso modo, toute la campagne, comme ça, je ne vais pas donner plein de détails, il y en a plein des détails, ont porté et ont permis à ces idées très fortes anti-arabes et pro-religion, en portant cette idée, ces deux idéologies-là, racistes et religieuses, ont permis à la droite de gagner. Ça a été très très fort. Le parti travailliste n'existe quasiment plus. Alors c'est un peu comme chez nous, il n'y a plus de gauche. Hein. Ils sont arrivés à tout détruire. L'alliance, c'est blanche et bleue, qui luttait contre Netanyahou, qui était plutôt de centre-droit, on va dire, n'est pas arrivée à convaincre non plus. Bon, elle partait de zéro. Mais voilà. Et aujourd'hui, on a à la tête de l'État une alliance un peu exactement même celle précédemment, c'est-à-dire de la droite du Likoud avec les partis religieux d'extrême droite. Et bah, la politique d'extrême droite mise en place par Netanyahou va pouvoir continuer. C'est une triste nouvelle. On pensait qu'il y aurait des réactions vu la campagne de haine qui a existé durant toute cette préparation d'élection. Il y a eu des caméras installées dans les bureaux de vote par le Likoud. Il y a eu plein de choses comme ça illégales. Et ben non, malheureusement, ils ont encore gagné.
Eh bien, vous pouvez toujours aller voir Tel Aviv on Fire, qui est toujours dans nos salles de cinéma à Lyon. Le film de Sam Azoubi, c'est drôle, c'est acide.
Et ça, et
c'est une bonne critique.
Et en fond, il y a la situation israélo-palestinienne. Et alors que c'est un film comique.
Oui, c'est une comédie, mais qui est largement aussi portée par Keith Nashif, ce comédien. Voilà, un bon petit film. Petite perle finalement, assez critique.
Tout en finesse, alors que l'histoire elle-même, avec ce soap-opéra, est tout sauf fin, c'est un soap-opéra, et il arrive à glisser plein de trucs à l'intérieur, c'est assez bien fait quand même. On peut le dire, puis on se marre.
Voilà.
Et ben, il est 19h59, passé de 42 secondes à la pendule rouge et noire de Radio Canu. Il y a une cohérence politique dans les couleurs. On se retrouve la semaine prochaine, 19h-20h, pour le prochain Canu Info du jeudi. Demain, peut-être vendredi à 20h pour le Canu Info du vendredi. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu beaucoup cette semaine. En tout cas, nous, on sera là la semaine prochaine normalement. Si tout va bien, on vous souhaite une bonne soirée.
Tu veux un dernier truc pour ta culture générale ?
Allez, vas-y.
Tu sais qui c'est qui est mort en 18 avril ? Albert Einstein.
Ouais, et Pierre
voilà.
Desproges.
Et voilà, et c'était en 1955. Moi, je pensais à Einstein parce que tout à l'heure, tu parlais science, tout ça.
Et
voilà.
Pierre Desproges en 88.
Voilà. Et ben Marcel Pagnol aussi, le 18 avril. Voilà, non, on peut vous faire la liste si vous voulez. Hein. Allez, on vous laisse. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Enfin, bientôt, on va vous laisser.
Ouais, il faut que la platine soit prête à partir pour le générique de l'émission suivante.
Voilà, voilà. Ben, j'aurais dû faire ma liste alors. Hein.